Écoute un métier, le podcast qui te permet de construire ton avenir sur Radio Campus Tours. Hey, salut, c'est Camille. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. Maintenant, tu peux t'installer confortablement pour l'épisode d'Écoute un métier, le podcast qui te propose d'en apprendre un peu plus sur peut-être ton futur travail. Aujourd'hui, je vais te faire un épisode construit différemment des autres, car au lieu de te présenter un seul métier, je vais plutôt te faire une présentation de l'INRAE, donc l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. En effet, j'ai eu l'occasion de pouvoir interviewer une invitée un peu spéciale. Je vais donc d'abord te présenter l'organisme, puis Madame Muriel Vassier-Tossa, chef du département santé animale de l'INRAE, prendra la parole à son tour pour nous présenter son métier. Donc l'INRAE, que tu connais peut-être sous le nom de l'INRA, est un organisme français de recherche sur l'agronomie, classé parmi les 7 premières institutions mondiales pour ses 4 objectifs de développement durable. Il est aussi, et je cite la page de leur site web, le premier organisme de recherche spécialisé au monde en agriculture, alimentation et environnement, dans les domaines qui rassemblent 70% de ses publications. Je te mettrai de toute manière le site de l'INRAE en lien sur la page du podcast. En 2020, il fusionne avec l'IRSTEA, l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture, donnant alors l'acronyme INRAE. D'ici 2030, l'organisme s'est engagé dans le RSE, donc la responsabilité sociétale et environnementale, afin d'espérer atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies. Pour ce faire, il doit répondre à 6 thématiques, donc le changement climatique et les risques. Le deuxième, c'est l'agroécologie. Le troisième, c'est la biodiversité. Ensuite, il y a l'alimentation et la santé globale, la bioéconomie, puis les sociétés et les territoires. Quels sont donc les buts concrets de l'INRAE? Le travail scientifique de recherche est la tâche la plus vaste. L'organisme s'attache à produire et publier des résultats de leurs travaux avant de les diffuser. De par son rayonnement international, il se doit de concourir aux stratégies nationales et européennes de recherche. Il est aussi en partenariat avec l'enseignement supérieur. Il contribue alors à la valorisation de son savoir-faire. Ceci, tout en correspondant aux enjeux du développement durable. C'est donc un organisme important, et qui de mieux pour te le présenter que l'une de ses actrices majeures. À présent, nous allons passer à l'interview de mon invitée.
Donc je suis ravie d'accueillir Madame Muriel Vassier-Tossa, directrice du Centre de Santé Animale à l'INRAE.
Oui, bonjour.
Donc, pouvez-vous m'expliquer en détail aux auditeurs votre parcours universitaire et professionnel?
Ok, donc en fait, j'ai un parcours universitaire, donc après le lycée, j'ai fait un baccalauréat scientifique et je suis partie à la faculté en fait. Je suis du sud-ouest, donc j'ai été à la faculté de Toulouse où j'ai fait des études en sciences biologiques en fait jusqu'à la maîtrise, et puis ensuite j'ai fait un master, enfin ce qui s'appelait à l'époque un DEA, diplôme d'études approfondies, et j'ai poursuivi par une thèse, donc j'ai réalisé une thèse qui a porté sur un parasite qui s'appelle Trichinella. Et cette thèse, en fait, il y a une partie théorique et puis il y a une partie appliquée que j'ai faite à l'ANSES à Paris. Et suite à cette thèse, en fait, j'ai réalisé ce qu'on appelle des stages postdoctoraux. Donc l'un à l'hôpital Cochin à Paris, et puis ensuite je suis partie aux États-Unis dans l'université de Harvard. Et donc voilà, à l'issue de ce parcours, j'ai passé des concours, et notamment le concours pour entrer à l'INRA, qui s'appelait l'INRA à l'époque, et depuis janvier 2020, INRA est devenu INRAE. Et donc j'ai reçu ce concours et j'ai été embauchée comme chargée de recherche dans une unité donc, qui était en co-tutelle entre INRA, l'école vétérinaire de Maisons-Alfort et l'ANSES.
Qu'avez-vous appris concrètement dans vos études? Pouvez-vous expliquer en vulgarisant un petit peu ce que vous avez appris?
Beaucoup de choses sur... c'était des études scientifiques en biologie, donc beaucoup de domaines en biologie, donc on se spécialise au fur et à mesure des années. Mais je dirais que plus globalement, ce qu'on apprend à l'université, c'est l'autonomie, à être autonome, capable de travailler seul, d'aller faire des recherches sur des documents, etc. tout seul. La curiosité également, j'ai eu la chance d'avoir des très bons professeurs qui ont vraiment suscité ma curiosité et l'envie d'apprendre. Et puis aussi, tout n'a pas été forcément facile, hein, il faut persévérer. Ce que j'ai appris aussi, c'est que les échecs n'en sont pas forcément et que il faut avoir la capacité de rebondir après ces échecs. Et même si on a des échecs, c'est pas grave. Et ça ouvre d'autres portes. Et voilà, donc, je dirais... Principalement, ces choses que j'ai appris pendant mon parcours universitaire.
Et pourquoi avez-vous fait un post-doctorat à Harvard et comment avez-vous pu intégrer cette université ?
Alors, il faut savoir que quand on fait une thèse, en fait, en France et partout ailleurs dans le monde, donc on a un diplôme de doctorat, mais pour ensuite pouvoir prétendre à un poste dans la fonction publique en particulier, parce que moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment... travailler dans la recherche publique, il est très recommandé d'aller voir ailleurs en fait ce qui se passe, d'avoir une expérience dans d'autres laboratoires. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un premier laboratoire donc à l'hôpital Cochin à Paris. Et ensuite, en fait, pendant ce stage à l'hôpital Cochin, j'ai rencontré, en fait, on collaborait avec différents chercheurs dans le monde entier, notamment avec une équipe à Harvard. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai décidé de continuer mes recherches dans leur laboratoire. Et voilà, donc j'ai eu une bourse pour partir étudier. J'y suis restée 18 mois.
Vous avez donc eu une bourse, est-ce que c'est spécifique à votre parcours ou souvent les étudiants, lorsqu'ils partent, ils ont une bourse qui est attribuée ?
Il faut être payé, donc oui, il faut trouver un financement. Donc ça peut être des bourses de l'État français, ça peut être des... Par exemple, moi, c'était la Ligue contre le cancer en fait qui m'a financé et ça peut être aussi le laboratoire d'origine le laboratoire où on va travailler qui peut financer nos recherches. Et d'ailleurs moi mes recherches elles ont été financées par le laboratoire à Harvard et j'ai été payée par la Ligue contre le cancer, mon salaire c'était la Ligue contre le cancer qui me l'a attribué. Donc c'est assez courant, oui.
C'est vraiment un très beau parcours. Et d'où est venu cet attrait pour la recherche animale et les maladies parasitaires ?
Alors au départ, moi ce qui m'a vraiment motivée, c'était la recherche en biologie. De manière assez générale, et je me suis pas dit quand j'ai commencé mes études, je veux faire de la recherche plus en santé animale ou en parasitologie. En fait, c'est au fur et à mesure de mes rencontres, en fait, avec des chercheurs, avec des professeurs, que ça s'est fait un peu, je dirais, par hasard. Et voilà, donc c'était des domaines qui me plaisaient, mais j'aurais vraiment pu travailler dans d'autres domaines. De la biologie en général, c'était vraiment ça la biologie qui me plaisait.
Avez-vous choisi de mener des recherches spécifiquement sur la maladie de Lyme ou se sont-elles imposées suite à votre prise de poste de chargée de recherche à l'INRA ?
Alors en fait, la manière dont ça s'est passé, c'est qu'effectivement quand j'ai été recrutée à l'INRA, c'était pour travailler sur des maladies qui sont dues à des agents pathogènes, enfin des parasites, des bactéries ou des virus, qui sont transmis par des vecteurs, donc des petits, soit des tiques, des puces, des moustiques, etc. Et donc j'ai commencé à travailler sur des bactéries qui étaient transmises de l'animal à l'homme, qui s'appelait Bartonella et qui étaient des maladies qui donnaient, une maladie qui s'appelle la maladie des griffes du chat, et qui étaient transmises au chat par des puces. Et on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui étaient malades, qui attrapaient cette bactérie, mais qui avaient... qui avait eu aucun contact avec les chats, mais en revanche qui avait été piqué par des tiques. Et donc on a commencé à investiguer la capacité des tiques à transmettre cette bactérie et donc à être responsable dans certains cas de la maladie des griffes du chat. Et de fil en aiguille, donc on a travaillé sur d'autres agents pathogènes et en particulier ceux qui transmettent la maladie de Lyme. Et petit à petit, j'ai choisi de m'intéresser plus spécifiquement aux tiques et aux maladies associées parce que je me suis aperçue que c'était vraiment un problème. Il y avait vraiment beaucoup de questions de recherche qui étaient associées à ces maladies et donc c'est comme ça que je me suis vraiment plongée dans cette recherche.
Oui, parce que souvent les maladies transmissibles à l'homme viennent souvent des animaux, c'est ça ?
Exactement, donc... On dit, alors c'est difficile à être sûr de ce chiffre, mais on dit que à peu près, plus de la moitié des maladies infectieuses humaines ont une origine animale. Et donc on parle aussi des maladies émergentes, dans des maladies qui arrivent, qui sont nouvelles et qui émergent, comme par exemple la Covid-19, ou des maladies qui étaient à bas bruit et qui augmentent pour des raisons X ou Y. Et dans ces maladies infectieuses émergentes, c'est les trois quarts, donc 75% de ces maladies ont une origine animale. Donc vraiment très important d'étudier ces maladies qu'on appelle des maladies zoonotiques parce que transmises de l'animal à l'homme.
Et que pensez-vous de l'épidémie du cerf zombie? Je ne sais plus exactement comment cela s'appelle.
Est-ce que c'est la maladie chronique des cervidés? Oui. Alors c'est une maladie, si c'est celle dont je pense, en fait c'est une maladie, ça s'appelle la CWD pour Chronic Wasting Disease. C'est une maladie qui ressemble en fait à une maladie à prion qui ressemble à ce qu'on appelle la maladie de la vache folle ou Creutzfeldt-Jakob chez l'homme, donc vache folle chez la vache. Donc effectivement, c'est une maladie qui a émergé depuis une dizaine d'années, donc dans le nord de l'Europe et également aux États-Unis, et qui est en train de décimer effectivement les cervidés. Pour l'instant, il n'y a aucun cas en France, mais c'est quelque chose qu'on suit effectivement de très près et on a des équipes spécialisées qui travaillent sur ces questions-là.
Votre évolution vers les postes de directrice de recherche puis de chef de département a suivi le cours normal des choses ou est-ce que c'est vous qui l'aviez demandé?
Alors, donc lorsqu'on est recruté en général, jeune chercheur, donc on est recruté en tant que chargé de recherche. Et ensuite, pour devenir directeur de recherche, oui, c'est un peu le cours normal, mais il faut passer des concours internes, donc c'est ce que j'ai fait. Donc tout le monde, tous les chargés de recherche ne deviennent pas directeurs de recherche, mais ceux qui le souhaitent peuvent le devenir en passant des concours. Donc il faut avoir fait ses preuves, il faut avoir dirigé des recherches, il faut avoir dirigé des étudiants en thèse, etc., des publications, donc il y a un certain nombre de critères. Mais oui, c'est une évolution normale. Ensuite, pour chef de département, ça c'est pas forcément. Enfin, c'est pas. Alors, on ne décide pas nous-mêmes qu'on devient chef de département. Donc, c'est en général la direction générale d'INRAE qui propose à des personnes de prendre ces postes. Et voilà, et c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Donc, j'avais pas du tout imaginé devenir chef de département. On m'a proposé de prendre ce poste en 2017. Donc, j'ai beaucoup réfléchi parce que c'était quand même un changement assez radical de métier. Et c'était beaucoup de responsabilités, beaucoup d'engagement. Et j'ai accepté. Et donc là, je suis chef de département depuis 2017. Et c'est en fait une mission. C'est 4 ans, renouvelable une fois. Et donc là, je suis à mon deuxième mandat et je finis normalement dans un an.
Et en quoi consiste donc concrètement le rôle de chef de département?
Alors, c'est un rôle assez important à INRAE, puisque donc en fait, on a 14 départements de recherche qui pilotent un certain nombre d'unités de recherche qui travaillent sur des thématiques bien particulières. Donc, mon département, c'est la santé animale. Donc, on pilote, dans mon cas, c'est une vingtaine d'unités de recherche qui sont réparties dans la France entière. Et le rôle du chef de département, avec une équipe, je ne travaille pas toute seule, j'ai une équipe avec moi, donc j'ai 3 chefs de département adjoints, une équipe administrative. Et donc, notre rôle, c'est de donner les moyens aux unités de travailler. Donc, c'est nous qui arbitrons les postes, en fait, qui sont recrutés dans les différentes unités. On donne également les moyens financiers aux unités pour travailler, pour réaliser leurs recherches. On fait également le suivi des chercheurs tout au long de leur carrière. Et puis, on participe à l'évaluation des unités, parce que toutes les unités de recherche sont évaluées tous les 4 ans, et également l'évaluation des chercheurs. Et puis, une dernière chose, c'est que le département donne en fait la stratégie scientifique générale du département. Donc, on écrit un document qui s'appelle le schéma stratégique scientifique du département, qui est en fait une sorte de feuille de route Et donc les unités rentrent dans cette feuille de route et développent des recherches en fonction de notre schéma stratégique.
Et comment effectuez-vous le suivi et l'évaluation des unités alors que vous en avez 20 à votre charge ?
Alors en fait, toutes les unités ne sont pas évaluées en même temps. Donc en fait, et l'évaluation des unités, elle est réalisée par un organisme qui s'appelle l'HCERS. C'est eux qui ont en charge toute la partie, toute l'évaluation des unités. Nous, on est là en appui. On aide les unités à préparer les documents à rendre et on analyse les ensuite il y a un jury en fait qui vient à l'unité pour évaluer ce qu'ils ont fait et puis ils rendent un rapport et ce rapport nous aide à voir comment on va faire évoluer l'unité. Donc en fait, c'est un travail qu'on ne fait pas tout seul. On est aidé par en particulier par cet organisme et on prend leurs conseils en fait pour ensuite faire évoluer les unités. Et donc toutes nos 20 unités ne sont pas évaluées toutes en même temps, heureusement. Il y a des vagues. Donc là cette année on est en vague E et nous avons cette année 2 unités qui seront évaluées. Donc voilà, des fois on en a un peu plus, des fois un peu moins, mais bon voilà. Donc on a ça. Dans l'agenda chaque année.
Pouvez-vous m'expliquer une journée type ou ce qui se rapproche le plus ?
Alors, je pense qu'il n'y a pas finalement de journée type. J'ai aucune journée qui ressemble à l'autre. Donc, par exemple, aujourd'hui, je vais vous dire aujourd'hui ce que je vais faire. Et donc, par exemple, aujourd'hui, je vous réponds à cette interview. Et ça, c'est assez... Enfin, je ne fais pas ça tous les jours, évidemment. Mais souvent, en fait, on peut répondre à des journalistes qui nous demandent... Enfin, qui passent par le service de presse d'INRAE, qui veulent des informations parce qu'ils écrivent un article dans tel ou tel journal. Voilà, donc ça arrive de temps en temps. Ensuite, après cet entretien avec vous, je vais avoir une réunion en visio avec, en fait, je vais participer à une assemblée générale d'une de nos unités qui est à Toulouse. Donc là, ça va durer de 11h jusqu'à à peu près midi et demi, 13h. Et puis cet après-midi, en fait, je vais la consacrer à deux choses. La première, c'est que, en fait, nous avons reçu des projets en fait de recherche qui émanent des chercheurs qui travaillent dans nos unités et donc cet après-midi je vais évaluer tous ces projets pour qu'ensuite en fait lundi matin on se réunit avec mes adjoints pour décider des projets que nous allons financer. Donc cet après-midi je vais faire une première évaluation. Et puis la dernière partie de ma journée, ça va être la préparation d'une conférence en fait que je dois faire la semaine prochaine. Voilà. Et lundi, ce sera complètement différent. Ça change un peu. Oui, ça change vraiment beaucoup. Donc les journées types, j'en ai pas. Je me déplace aussi beaucoup puisque mes unités sont un peu partout en France. Donc oui, j'ai pas mal de déplacements. Par exemple, la semaine prochaine, je pars mardi, mercredi, je reviens ici jeudi et vendredi, enfin voilà.
Et qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier, justement ?
Alors, ce qui me passionne, c'est... À l'origine, c'est vraiment... assez vite, en fait, j'ai voulu faire de la recherche. Et c'est de comprendre, en fait, les mécanismes comment les organismes fonctionnent, comment les maladies apparaissent, etc. Donc ça, c'était vraiment comment un microbe va pouvoir aller infecter un être vivant, que ce soit un animal, l'homme, pourquoi pas une plante. Enfin, j'ai pas travaillé sur les plantes, mais c'est aussi tout à fait intéressant. Comment l'organisme répond à ça, comment il se protège et comment nous, on peut l'aider. Donc ça, c'était vraiment la base. Et c'est vraiment ça qui m'a vraiment amené à faire de la recherche. Et puis aussi, c'est tout ce que l'on peut, les solutions aussi qu'on peut apporter. C'est un métier où on se sent utile, en fait. On apporte des innovations pour pouvoir guérir, dans mon cas précis, les animaux. Et donc ça, c'est important. Et ce que j'aime particulièrement, c'est le côté nouveau. Enfin, tous les jours, c'est différent. C'est qu'on rencontre énormément de gens aussi. C'est que c'est un métier qu'on ne peut pas faire tout seul. On le fait en interaction avec d'autres. On discute beaucoup. On va dans des colloques. Donc vraiment, c'est un métier où on est très stimulé intellectuellement tout le temps. Et ça, je trouve ça intéressant. On ne s'ennuie pas.
Et vos passions au niveau de la recherche ont-elles évolué ou changé de perspective en fonction de votre parcours ?
Tout à fait. Donc au début, moi, ce qui me plaisait beaucoup, et c'est ce que j'ai fait pendant assez longtemps, c'était la recherche vraiment fondamentale, c'est-à-dire comprendre comment... Alors, par exemple, je vais vous donner l'exemple sur lequel j'ai travaillé pendant longtemps. C'était, en fait, on travaillait sur des bactéries, donc les fameuses Bartonella. On avait plusieurs différentes espèces. Et chacune de ces espèces infectait une espèce mammifère bien particulière. Et certaines étaient capables d'infecter l'homme et d'autres n'étaient pas capables d'infecter l'homme. Et donc, ce que j'ai essayé de comprendre, c'était pourquoi une espèce de Bartonelle était capable d'infecter une espèce de mammifère et pas l'autre, et pourquoi de temps en temps elles étaient capables d'infecter l'homme. Et donc ça... Ça a été vraiment une grande partie de mes recherches et on a mis en évidence qu'en fait, si une espèce de Bartonelle était capable d'infecter une espèce de mammifère, c'était qu'elle était capable de reconnaître ses globules rouges. Et par contre, elle n'était pas capable de reconnaître des globules rouges d'une autre espèce. Et donc, on a identifié les mécanismes. Qu'est-ce qui, dans la bactérie, était capable de reconnaître ces globules rouges? Qu'est-ce qui, dans le globule rouge, permettait la reconnaissance, etc., etc. Et on a également montré pourquoi certaines espèces étaient capables de passer d'un mammifère, d'une espèce de mammifère, par exemple d'un chat à l'homme. Et donc ça, ça a été vraiment très important au départ. Et ensuite, au fur et à mesure, je me suis dit que c'était aussi important de faire des choses qui étaient très utiles en fait. Et je me suis plus dirigée vers de la recherche un peu plus appliquée, avec des applications et avec des... sur des problématiques qui avaient vraiment un enjeu en santé publique et c'est pour ça que je me suis un peu plus dirigée vers les maladies transmises par les tiques.
Donc une des qualités nécessaires à votre métier, c'est la curiosité.
Oui, ça c'est sûr, c'est tout à fait. Et oui, être curieux et avoir envie de comprendre certaines choses, comment ça se passe et essayer de trouver des solutions pour... dans mon cas, pour guérir les animaux ou les hommes.
Et y a-t-il des contraintes auxquelles vous deviez faire face et auxquelles vous n'étiez pas préparé lorsque vous avez commencé votre métier ?
Alors, je dirais plusieurs choses. Enfin, la première, c'est que moi, quand j'ai commencé, j'avais peut-être une vision un peu idéaliste de ce métier que j'ai quand même toujours, mais malgré tout, c'est un métier où il y a pas mal de compétitions entre les équipes, donc c'est des milieux où on travaille avec des chercheurs du monde entier et on est à la fois, on collabore avec eux, mais parfois on est aussi en compétition. Donc il y a cet aspect où il faut trouver le premier, où il faut donc ça c'est un aspect que j'avais pas forcément que j'avais pas forcément imaginé à l'avance, mais qui, une fois qu'on le connaît, c'est pas très grave, mais il faut savoir. Et il y a des gens aussi avec qui, on va être capable de travailler parce que on a des affinités, parce que ils ont les mêmes valeurs que nous, etc. Puis il y en a d'autres qui, avec qui on n'a pas envie de travailler, tant pis, on travaille pas avec eux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est tout le côté administratif, mais ça, c'est pas spécifique à la recherche.
Non, pas du tout.
Non, ça, c'est un peu embêtant.
Et à contrario, les points positifs ?
Ça, il y en a beaucoup. C'est vraiment l'ouverture sur le monde. On travaille vraiment... il n'y a pas longtemps, j'étais aux Pays-Bas. On voyage beaucoup. On va dans des congrès, donc on rencontre énormément de monde. C'est le côté toujours nouveau, la stimulation intellectuelle, le fait de travailler avec des gens souvent passionnants. On participe aussi à l'enseignement des plus jeunes aussi, puisqu'on accueille beaucoup de personnes qui sont en thèse, ou en master ou en thèse. Donc on forme les étudiants. Donc ça, moi, je trouve ça aussi très intéressant. Donc voilà, il y a beaucoup de points très positifs en fait à ce métier de chercheur.
Quelles sont vos perspectives d'évolution à l'avenir?
En fait, comme je l'ai dit au départ, donc je vais arrêter cette mission de chef de département dans un an. Et là, pour l'instant, je ne sais pas exactement ce que je vais faire, mais les perspectives d'évolution, elles sont assez variées et importantes. Donc ça peut être soit au sein d'INRAE, occuper un autre poste, soit au niveau de la direction générale, ou voilà, je sais pas, mais il y a énormément de possibilités, ou aller, pourquoi pas, faire des choses assez équivalentes, mais dans un autre institut, partir à l'étranger. Enfin, voilà, pour l'instant, je ne me ferme aucune porte, et là, je suis en train, en ce moment, justement, d'investiguer, de voir ce que je pourrais faire, et là où je serai finalement le plus utile. Voilà, donc je suis en discussion avec aussi ma direction pour essayer de trouver ce qui... voilà, mon prochain job qui, j'espère, sera encore plus stimulant que celui-là.
Et donc, au début du podcast, j'ai déjà expliqué à nos auditeurs le rôle de l'INRAE. Pouvez-vous néanmoins en faire un rappel et expliquer avec vos termes ?
Alors, INRAE, c'est l'Institut National de Recherche Agronomie, enfin, pour l'agronomie, pour l'agriculture, pardon, l'alimentation et l'environnement. Donc, en fait, voilà, c'est un institut de recherche. Donc, sa première mission, c'est de produire des connaissances pour améliorer l'agriculture, pour une meilleure alimentation et pour tout ça dans un environnement qui soit protégé. Voilà, donc on travaille vraiment pour l'agriculture de demain, pour nourrir les hommes avec des produits sains et tout en étant vraiment conscient que cette agriculture, il faut qu'elle soit réalisé en ayant le souci de protéger l'environnement et la santé humaine.
Et le budget alloué pour la recherche est-il suffisant ?
Comparé à certains autres pays, je dirais non, mais malgré tout, on a les moyens de travailler, mais évidemment, on aimerait toujours en avoir plus, mais malgré tout, c'est quand même, voilà, on a les moyens quand même de travailler, même si, évidemment, il y en aurait plus, ce serait mieux.
Pouvez-vous expliquer brièvement les différents types de postes au sein de vos unités ?
Alors, dans une unité de recherche, en fait, on a beaucoup de postes différents, donc qui vont du technicien, en fait, de laboratoire jusqu'au directeur de recherche et au directeur d'unité. On a également des équipes administratives, pour assurer la gestion en ressources humaines, la gestion financière des unités. Et puis aussi, on a des unités, donc ces unités de recherche vont avoir des pour mission de produire des recherches et donc évidemment des résultats. Et puis on a aussi des unités expérimentales, où on peut faire des expérimentations, en particulier sur des animaux, par exemple lorsqu'on veut tester des vaccins, si on veut tester tout un tas de choses, on a des unités expérimentales donc, qui sont dédiées à nos études.
Et j'ai vu qu'il était possible de faire une thèse à l'INRAE, pouvez-vous m'en dire plus ?
Alors tout à fait, c'est une de nos missions, hein, INRAE, c'est de former les jeunes chercheurs. Donc en fait, on a... toutes nos unités, effectivement, accueillent des étudiants, donc des thèses. Donc pour postuler, toutes nos unités appartiennent à des écoles doctorales. Et donc, s'ils ont des sujets de thèse, ils les proposent aux écoles doctorales. Et ensuite, les étudiants qui sont en master peuvent choisir. Et il y a tout un processus de sélection de ces étudiants, à la fois par l'école doctorale et par... et par nous. Et voilà, une fois qu'ils arrivent dans nos unités, donc ils ont un contrat, ils sont payés évidemment, hein, ils sont donc soit par INRAE, par des organismes ou par le ministère de la Recherche, et puis donc ils effectuent leur thèse pendant une période de 3 ans. Ils ont un directeur de thèse, parfois ils ont même 2 co-directeurs de thèse, un sujet de recherche, et au bout de 3 ans, ils passent leur diplôme.
Pouvez-vous expliquer les objectifs de l'INRAE concernant 2030 ?
C'est assez, assez vaste comme question, mais en fait, finalement, je dirais qu'on travaille pour une agriculture, pour l'agriculture de demain, en fait, pour de 2030, et 2030, on y est, hein, donc, là, mais c'est une agriculture qui respecte évidemment l'environnement, qui respecte également les animaux, donc on travaille beaucoup aussi sur le bien-être des animaux d'élevage. Comment faire pour avoir des animaux et dans des très bonnes conditions pour qu'ils soient en condition de bien-être. Donc c'est une agriculture aussi qui respecte donc à la fois l'animal, l'environnement et qui puisse évidemment nourrir les hommes et que ces hommes qui vont manger les produits de notre agriculture puisse rester en très bonne santé. Donc voilà, c'est tout un tout l'enjeu d'INRAE, c'est de réaliser des recherches qui permettent une évolution de l'agriculture dans ce sens.
Et le nombre d'emplois à pourvoir à l'INRAE est-il suffisant face au nombre de candidats ?
Alors, en général, dans les concours en fait qu'on ouvre chaque année, on a toujours plus de candidats que de postes, et tant mieux, parce que comme ça, on peut choisir les meilleurs candidats. Et souvent, on a plusieurs candidats très bons, hein, donc on n'est pas en manque de candidats. Les postes à INRAE, jusqu'à présent, ils sont constants, c'est-à-dire que il y a autant de postes ouverts que de personnes qui partent en retraite. Donc on peut dire qu'on est assez bien loti par rapport à d'autres organismes de recherche ou par rapport à la fonction publique de manière générale. Mais évidemment, si on en avait plus, on serait évidemment content.
Donc que conseillerez-vous à quelqu'un qui souhaite candidater ou passer un concours au sein de l'INRAE ?
C'est assez compliqué comme question, parce que ça dépend évidemment pour quel poste, etc.
Mais par exemple, sur le site, il y a les sujets des années passées, ou je sais pas comment ça fonctionne en recherche, mais...
Alors, par exemple, pour les chercheurs, les chercheurs, quand ils se présentent, en fait, ils vont présenter ce qu'ils ont fait dans le passé. Donc c'est un oral en fait, hein, c'est devant un jury, et donc ils présentent leur parcours et pourquoi ils postulent sur tel ou tel poste. Et ensuite le jury leur pose des questions. Donc effectivement, il faut être préparé. Je pense qu'il faut se poser des questions. Est-ce qu'on a envie de venir travailler à INRAE ? Est-ce qu'on a envie de venir travailler pour des questions sur lesquelles travaille INRAE, ça c'est la première chose, parce que c'est quand même, il y a des enjeux importants, et il faut vraiment, et c'est un métier vraiment qui a du sens, enfin tous les métiers hein, de la recherche à INRAE ont du sens, et donc il faut que les gens qui viennent travailler à INRAE soient en accord en fait avec ce que veut développer INRAE. Donc je pense que la première des choses, c'est de bien comprendre ce qu'est cet organisme de recherche pour être en phase en fait, et pas se retrouver dans une situation où les gens seraient finalement pas confortables, ou par exemple dans notre département où on travaille sur la santé animale, évidemment il y a certaines unités qui ont besoin de faire de l'expérimentation animale. Donc si quelqu'un n'a pas envie de faire l'expérimentation animale, ce qu'on peut tout à fait comprendre, ben, c'est pas la peine qu'ils viennent travailler sur des sujets où on va devoir utiliser l'expérimentation animale. Donc voilà, il faut se poser vraiment ce genre de questions. Mais après faut se préparer au concours, il faut, mais bon voilà, comme partout ailleurs, je dirais.
Donc je vous remercie beaucoup pour cette interview.
Si, merci beaucoup.
C'est déjà la fin de ce podcast sur Radio Campus Tours. J'espère qu'il t'aura plu, et n'oublie pas de t'abonner sur la page Instagram d'Écoute un métier. À bientôt !